Tendance première.
Bonjour Serge Tisseron.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir dans cette émission avec votre nouveau livre paru aux éditions Albin Michel, Empathie et manipulation, les pièges de la compassion. On va en parler avec vous. Et puisqu'on parlait de notre question tabou il y a quelques instants qui concerne les sextoys, on a été voir ce que c'était le Cobra 2. On était très intrigués tous les deux, faut bien l'avouer. On a vu et ça vous surprend. C'est encore une machine et vous parlez beaucoup des machines justement dans cet ouvrage aussi.
Oui, j'ai d'ailleurs même encore plus parlé des machines dans un ouvrage précédent,
oui, tout à fait.
Des robots, voilà. Mais là, j'en reparle parce que il me semble que de plus en plus, les machines vont être capables de détourner à leur profit une partie de notre empathie pour les humains. Voilà, la nature a créé une capacité d'empathie humaine qui peut s'adresser aux objets et aux humains, mais classiquement, nous la mettons en forme, nous la cultivons plutôt avec des humains, mais nous entrons dans une culture où nous serons de plus en plus encouragés à cultiver notre empathie pour des objets, à nous attacher à eux, à leur rendre des services, à les éduquer pour qu'ils s'occupent mieux de nous, exactement comme on le fait avec des humains. Mmh.
Vous parlez de l'empathie, empathie évocateur d'altruisme, voire d'amour. Dites-vous, ce mot a de quoi séduire en ces temps où nous cherchons des raisons d'espérer. Pourtant, vous nous dites aussi que l'empathie est gravement menacée, notamment par des manipulations qui brouillent les enjeux. Et les manipulations, en vous lisant tout au long de cet ouvrage, elles sont quand même vachement nombreuses.
Vachement
nombreuses.
Nombreuses. Elles sont nombreuses. Alors, et elles sont nombreuses et préoccupantes. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que on parle beaucoup d'empathie. Alors, oui. Ça, c'est très bien. L'empathie est présentée comme un remède à l'individualisme. L'empathie permettrait de cultiver le sens de la solidarité, de l'entraide. Bon, tout ça est vrai. Mais en même temps, ce n'est pas que cela, l'empathie. L'empathie, c'est une capacité qui peut être manipulée, et c'est aussi une capacité qui peut permettre de manipuler autrui. Les manipulateurs, les bons manipulateurs, peuvent avoir une bonne capacité d'empathie. Il faut contextualiser l'empathie. Il y a de bonnes utilisations de l'empathie. Il y a des utilisations problématiques de l'empathie. C'est surtout pas au moment où on commence à en parler autant qu'il faut en donner une mauvaise définition et se tromper sur ce qu'elle est vraiment.
Et justement, vous faites aussi la différence entre l'empathie et la compassion.
Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est compliqué parce que le mot compassion a une définition traditionnelle en Occident. C'est cum passio, du latin cum avec et passio la souffrance, donc souffrir avec. Donc traditionnellement, en Occident, la compassion, c'est le fait de souffrir pour quelqu'un qui souffre, avec quelqu'un qui souffre. Ma fille est heureuse de se marier, je ne vais pas lui dire j'ai de la compassion pour toi, dans la tradition occidentale. En revanche, le mot compassion aujourd'hui est beaucoup utilisé dans un autre sens, qui est le sens proposé par les bouddhistes tibétains, par le Dalai Lama, et c'est un sens totalement différent. La compassion, dans une tradition bouddhiste tibétaine, c'est une capacité qui associe le fait de ressentir les émotions d'autrui, le fait d'avoir un élan de solidarité avec lui, le fait de comprendre ce qui lui arrive, un jugement sur la difficulté d'être au monde, voilà, une dimension existentielle. Donc quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus complexe. Et donc du coup, quand on parle de compassion, on ne sait plus très bien de quoi on parle.
Mais l'empathie aussi est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on imagine. Parce qu'il y a différentes façons de ressentir ou de vivre l'empathie. Vous parlez d'empathie cognitive, par exemple.
Voilà, tout à fait. Et donc, c'est là où on peut préciser encore plus ce que je viens de dire il y a quelques minutes. C'est que dans la tradition occidentale, la compassion, c'est avoir de la souffrance pour la souffrance d'autrui, mais on pourrait dire aussi, dans cette dimension émotionnelle, avoir du plaisir avec quelqu'un qui a du plaisir, c'est la dimension émotionnelle de l'empathie. Puis il y a une dimension cognitive de l'empathie, comprendre pour que l'autre peut avoir des raisons de se réjouir et des raisons de s'attrister qui sont différentes des raisons pour lesquelles moi je me réjouirais ou je m'attristerais. Et puis il y a enfin une troisième dimension qui est la capacité de pouvoir relativiser son point de vue et se mettre émotionnellement à la place de l'autre. Ça revient, si on veut résumer les choses par trois phrases clés, c'est d'abord, je vois que tu es triste, je vois que tu es content, c'est l'empathie émotionnelle. Je comprends pourquoi tu es triste ou content, c'est l'empathie cognitive, même si ce qui te rend triste ou content, moi, ça ne me rendrait pas triste ou content. Puis la troisième dimension, si j'étais à ta place, je serais content, je serais triste comme toi. Donc ça, c'est l'empathie complète. Et bien, cette empathie complète, dans la tradition bouddhiste tibétaine, c'est ce qui s'appelle la compassion. Et donc, voyez, du coup, on en arrive à un truc étonnant, c'est que dans la tradition occidentale, on sort d'un excès de compassion en rentrant dans l'empathie complète, de comprendre les tenants, les aboutissants, etc., la curiosité de l'autre, le goût de l'autre. Et puis dans la tradition bouddhiste tibétaine, les mots sont inversés. On sort de l'empathie qui est réservée à sa dimension émotionnelle pour rentrer dans la compassion, qui est une forme très élevée de conscience de soi, de l'autre, du monde, etc. Et donc du coup, vous voyez, on a deux approches. Dans l'une, on sort de la compassion en entrant dans l'empathie. Dans l'autre, on sort de l'empathie en rentrant dans la compassion. Et il y a un brouillage complet. Oui. Et c'est ce brouillage que j'essaye de lever, hein, en expliquant clairement les choses, parce que beaucoup de gens s'y perdent. Et j'ai même vu des gens qui se battent. Enfin, je ne me bats pas physiquement, mais des joutes verbales dans lesquelles des gens disent non, l'empathie c'est une mauvaise chose, préférons la compassion. Et d'autres disent non, la compassion c'est une catastrophe, préférons l'empathie. Ils parlent de la même chose, simplement ils n'ont pas compris qu'ils les désignent autrement.
Mmh. Mathieu Ricard, et vous d'ailleurs le précisez à certains moments dans votre ouvrage, il explique que le danger, que ce soit de l'un ou de l'autre, c'est aussi de vivre la douleur de l'autre.
Bien sûr.
Il faut éviter d'aller jusque-là. En fait.
Alors c'est ce que l'empathie dans sa forme complète évite, hein, puisque l'empathie cognitive permet de dégager de l'empathie émotionnelle. Hein. Oui. C'est-à-dire que, bon, pour comprendre que l'autre souffre, il faut que je fasse appel à ma propre souffrance à l'intérieur de moi. Mais je vais peut-être faire appel à l'intérieur de moi à une souffrance qui n'a rien à voir avec la souffrance de l'autre. Voilà. Je suis avec quelqu'un qui a été violé, je reçois une femme violée dans mon bureau, elle me raconte ce qu'elle a vécu, bon, moi, je fais faire comment pour me mettre à sa place, faut pas exagérer quand même. En revanche, je vais faire appel à d'autres souffrances, hein, peut-être d'avoir reçu une correction imméritée ou d'avoir reçu un accident, quelque chose m'est entré dans le corps, voilà. Donc je vais faire appel à d'autres souffrances différentes. Et l'important, ça va être de bien comprendre que ce à quoi je fais appel à l'intérieur de moi pour me représenter la souffrance de l'autre, ça ne correspond que très partiellement à la souffrance de l'autre. Donc il ne faut pas que je croie que je me mets à la place de l'autre. Simplement, je fais une construction mentale qui me permet de me rapprocher de l'autre, mais seulement de me rapprocher. Ce n'est qu'une construction mentale. Et ce qui va me permettre de bien comprendre, c'est qu'une construction mentale, mais ça va être l'empathie cognitive qui va me permettre de prendre du recul. Donc de ce point de vue-là, pas de problème, tout le monde est bien d'accord là-dessus. La question, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on nomme, de quelle manière.
C'est ça. Et notre capacité d'empathie est constamment manipulée. Alors, il y a des domaines où ça semble assez évident, comme la publicité et le marketing. On imagine bien qu'effectivement, on va jouer sur des sentiments et particulièrement aussi sur l'empathie. Par contre, il y a des domaines où vous dites qu'aujourd'hui, on en use et on en abuse, notamment la politique, mais aussi des domaines de notre vie très quotidienne, finalement, qu'on n'imaginait pas. Et on va en parler avec vous dans un instant. Ce sera juste après Adam Cohen et Virginie Ledoyen.
Tendance première.
C'est paru aux éditions Albin Michel, Serge Tisseron, cet ouvrage Empathie et manipulation. Alors, vous parlez d'un exemple, et très rapidement, l'exemple parfait de l'empathie manipulée en politique, c'est Donald Trump, qui s'est adressé et qui a conquis un électorat qui n'était pas le sien au départ, parce que pas du tout issu de la même classe, et Donald Trump représente quand même l'intelligentsia et le côté très grande réussite, fortune des États-Unis. Et son électorat, et ça s'est confirmé pendant les élections, il a été le chercher à la base, chez l'ouvrier, chez les personnes les plus pauvres, chez les personnes les moins éduquées. Et ils se sont rencontrés sur ce terrain-là parce qu'il a manipulé ce sentiment d'empathie.
Oui, et il a fait preuve d'une grande habileté manipulatoire grâce à son empathie cognitive. Oui. C'est-à-dire que Donald Trump n'a pas cherché à expliquer son programme à ces petits, ceux qu'on appelle les petits blancs du sud-ouest des États-Unis. C'est-à-dire des blancs de régions défavorisées qui ont une baisse considérable du niveau de vie, même de l'espérance de vie. Alors, il ne leur a pas expliqué son programme. Il a parlé comme eux. Cyril a dit, il a fait comprendre qu'on l'avait fait taire trop longtemps. Alors, on ne l'a jamais fait taire, Trump, il a même eu une émission de télé-réalité. Ouais. Mais il intervenait toujours comme si on l'avait fait taire trop longtemps, comme si il avait le droit de manipuler l'insulte, parce que c'était... Parce que comme on l'avait fait taire, il avait le droit au coup de gueule, voilà, comme quelqu'un qu'on a fait taire longtemps, quand on lui laisse parler, c'est d'abord des coups de gueule. Donc, finalement, avec ses gestes, ses attitudes, ses intonations, ses propos, il a donné l'impression à ces fameux petits blancs que il ressentait comme eux, qu'il pensait comme eux, alors qu'il n'a pas explicité son programme. Il a mis en scène leur révolte sur les plateaux de télévision et c'est ça qui lui a permis d'obtenir leur voix. Et ça, ça a été une formidable capacité d'empathie manipulatoire. Il a compris qu'est-ce qu'ils attendaient, il l'a mis en scène, il a obtenu leur voix. Et voyez, c'est pas par le texte, c'est pas par le pouvoir de conviction de sa parole, c'est par tout ce que les sémiologues appellent le paralangage. hein, la mise en scène, l'intonation, les gestes, les attitudes, et qu'il a conquis ce public en leur donnant l'impression qu'il était pétri de la même pâte qu'eux. Et ça, c'est encore une fois une formidable une formidable intelligence manipulatoire liée à l'empathie cognitive.
Mais c'est très difficile de se prémunir de ce type de manipulation, je veux dire. C'est très difficile aussi d'essayer d'aller contre, parce qu'on a vu d'autres candidats essayer d'expliquer qu'ils manipulaient son électorat, et il y a une espèce de refus dans l'idée de se dire « ben non, je ne peux pas être manipulé sur ce sujet-là, c'est pas possible ».
Ben, il faut arriver à faire passer la raison avant l'émotion, hein, en politique, oui. Mais c'est vrai que c'est difficile, parce que les politiques utilisent tous les procédés possibles, bien étudiés par les psychologues, pour frapper au cœur, hein, quand on voyait, et au ventre, quand on voyait les spots publicitaires, on voyait combien les candidats ne se privaient pas de manipuler les émotions des spectateurs. Donc oui, on est dans une période difficile. Les outils numériques aujourd'hui ont un très fort pouvoir de manipulation. On l'a vu aussi avec Daesh, hein, des mises en scène d'enfants syriens gazés, voilà, des rythmes trépidants, des musiques très enthousiasmantes. Donc les médias numériques aujourd'hui ont un formidable pouvoir de manipulation. Et puis en plus, il ne faut pas oublier que, indépendamment même de ce qu'ils mettent en scène, les médias numériques ont la possibilité de nous interpeller directement. Sur mon téléphone mobile, dans ma salle de bain, dans ma voiture, tout d'un coup, quelqu'un vient m'interpeller. Quelque chose m'arrive chez moi, dans mon intimité. Et donc à un moment où je suis particulièrement vulnérable, où j'ai baissé ma garde, parce que c'est un espace intime. Et donc du coup, voilà, du coup, on vit aujourd'hui un risque de manipulation d'empathie beaucoup plus grave que par le passé.
Tous les domaines aujourd'hui de la société semblent touchés par cette manipulation.
Oui, tous les domaines sont touchés. Et ce qui est dramatique, c'est qu'en même temps, l'empathie est présentée comme un remède universel, et comme un remède universel, hélas, trop souvent, qui ferait appel à des capacités individuelles, c'est-à-dire développer l'empathie vis-à-vis de vos prochains, vis-à-vis de vos proches et de vous-même. Bon, tout ça est vrai. Mais ce que j'essaye de montrer aussi dans mon livre, c'est qu'il y a des situations sociales et économiques qui créent des conflits d'empathie dans lesquels il n'est pas possible de sortir en développant une empathie individuelle, parce que cette empathie est constamment condamnée à ne pas savoir à qui s'adresser. Je donne l'exemple des soignants dans les hôpitaux, oui. Hein, voilà, des soignants qui sont de moins en moins nombreux pour s'occuper d'un nombre identique, voire plus important de malades. Quoi faire ? Alors, j'ai bien connu la situation quand j'étais praticien hospitalier. Soit on continue à essayer de s'occuper le mieux possible de quelques malades dont on veut s'occuper bien, mais à ce moment-là, c'est les collègues qui ont une surcharge de travail. Soit on va s'occuper d'un nombre plus important de malades, mais avec la frustration de s'en occuper mal, moyennant quoi les collègues auront moins de travail. Et vous voyez, dans le premier cas, je privilégie l'empathie pour les patients, dans le deuxième cas, l'empathie pour les collègues. Et dans les deux cas, je me sens malheureux. Et le fait de me sentir malheureux ne va pas se résoudre en développant ma capacité d'empathie, puisqu'au contraire, plus je la développe, plus je souffre. Donc ce qu'il faut, c'est mettre à plat les conditions sociales. Même chose pour les enseignants. Des enseignants qui ont, sur 30 élèves, 15 qui travaillent bien, 15 qui traînent le pied. Est-ce que l'enseignant va s'occuper des 15 qui travaillent mieux pour les faire aller encore plus vite? Ou est-ce qu'il va essayer de s'occuper des 15 qui traînent le pied pour leur faire rattraper le retard? Dans les deux cas, c'est une frustration. Donc, si vous voulez, il y a des choix qu'il ne faudrait pas avoir à faire. Or, on voit bien que ces choix-là, aujourd'hui, ce sont des choix dans lesquels notre empathie est malmenée, et comme je le montre, quand on fait taire son empathie pour une partie de nos patients en tant que soignants ou pour une partie de nos élèves en tant qu'enseignants, c'est notre capacité même d'empathie qui est malmenée, qui est amputée, et on ne peut plus continuer après à l'exercer de la même manière.
La question à se poser, c'est dans les deux cas que vous venez de présenter, c'est qui est à l'origine de ce choix impossible, et dans les deux cas, c'est l'institution.
C'est l'institution. C'est pour ça qu'il y a des problèmes qu'il faut mettre au clair dans les institutions. Tous les problèmes d'empathie auxquels on se heurte dans les institutions n'appellent pas la solution individuelle à laquelle certains voudraient nous faire croire. Il y a trop de gens qui font de l'empathie un fonds de commerce en disant voilà, vous allez la développer, puis ça va aller mieux, puis vous allez apprendre à mieux respirer, à mieux contrôler vos émotions. Non, ça ne résout pas ces problèmes-là. Les conflits d'empathie en institution ne sont pas solubles de manière individuelle.
Se prémunir de la manipulation, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Avec Serge Tisseron, bien sûr, qui est avec nous, et son ouvrage Empathie et manipulation, Les pièges de la compassion, chez Albin Michel. On va voir comment effectivement se prémunir de cette manipulation outrancière aujourd'hui dans notre société. C'est bien ce que vous dénonciez, Serge Tisseron. Comment la reconnaître aussi, cette manipulation?
Tendance première,
10h midi. Midi.
Véronique Thiberguien sur la première.
Et Serge Tisseron qui est avec nous. Et si vous avez raté le début de cette émission, podcast comme d'habitude, et non, ça c'est quand même le truc un peu magique. Et retrouvez d'ailleurs le début de l'interview aussi avec Serge Tisseron. On parle de manipulation. Il y a juste un public qu'on a oublié parce qu'on a tendance à parler adulte. Hein. Bon, on est manipulé, on le sait, parfois on l'accepte moins bien, on lutte. On a des armes pour. Les enfants, ils n'ont pas d'armes pour ça.
Non, ils n'ont pas d'armes. Et il y a quelque chose qui, de plus en plus de travaux montrent l'importance, c'est que cette fameuse capacité d'empathie dont on parle depuis le début, elle s'installe au cours de ce qu'on appelle des fenêtres d'opportunité. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'évolution de l'enfant où certaines composantes de l'empathie se mettent en place de manière beaucoup plus active, quasiment naturelle. Mais si on passe de cette fenêtre-là, après c'est plus compliqué. Et notamment entre 1 et 3 ans, ou même entre la naissance et 3 ans, l'importance de pour l'enfant de constituer le visage de l'autre comme repère de communication partagée. Et hélas, aujourd'hui, beaucoup d'enfants passent plus de temps devant la télévision qu'à interagir avec un visage humain. Et des études récentes viennent de montrer que ces enfants, ensuite, ont beaucoup de difficultés à regarder un interlocuteur dans les yeux, à repérer l'émotion d'autrui, à se guider sur l'émotion d'autrui quand il s'adresse à lui. Et donc, voyez, là, c'est important parce que on touche vraiment aux origines de la construction de l'empathie. Et ben, il faut savoir, il faut que tous les parents qui nous écoutent sachent que laisser un enfant tout petit devant la télé, ben, c'est peut-être après se préparer à ce que le préado, l'ado qu'il va devenir, ne nous regarde jamais quand on lui parle, ne nous écoute pas, parce que quand on regarde pas aussi, c'est parfois difficile d'écouter. Donc voilà, savoir qu'il y a des moments dans la construction de l'empathie. La toute petite enfance, c'est le repère émotionnel, le visage de l'autre. Aux alentours de 4 ans et demi, 5 ans, 6 ans, c'est la compréhension du monde, c'est le fait que l'autre puisse avoir des raisons différentes de soi, expliquer aux enfants, ben voilà, que l'autre peut souffrir pour des raisons différentes de soi, être content pour des raisons différentes de soi. Et puis entre 8, 9 ans et 12 ans, nouvelle fenêtre d'opportunité pour qu'on soit la relativité des points de vue, hein, accepter qu'on puisse avoir différents points de vue sur un même sujet. Diverses personnes ont différents points de vue, mais aussi à l'intérieur de moi, je peux hésiter entre différents points de vue. Voilà, accepter cette relativité des points de vue. Et là, il y a tout un travail éducatif à mener. Hein, la nature a installé à l'intérieur de chacun d'entre nous une capacité d'empathie, mais il en est de cette capacité d'empathie, comme de tout ce que la nature installe chez l'être humain. Elle a besoin d'être cultivée. La nature nous a donné une aptitude au langage, ben il faut l'apprendre. Mmh. Voilà, une aptitude à l'écriture, à la lecture, il faut l'apprendre. Une aptitude à l'empathie, il faut la cultiver. Voilà.
Il y a une chose que je supporte de moins en moins dans les séries pour les enfants, justement, des séries avec de vrais acteurs, donc pas les dessins animés. Non seulement vous avez les rires souvent enregistrés, alors pas dans tous, mais ce que je supporte moins, de moins en moins, c'est pas les rires, c'est les « oh » pour appuyer une espèce d'émotion comme ça où on devrait se sentir oh, un peu touché. Et si l'enfant ne se sent pas touché à ce moment-là parce qu'il n'a pas compris, il se sent mal parce que dans la télévision, il a entendu « oh » comme ça. Et il ne peut pas suivre. Ou alors, on l'invite à suivre sur des émotions qu'il n'aurait peut-être même pas ressenties parce qu'elles sont...
Oui. Il y a une réduction du registre émotionnel hein, qu'on voit dans les programmes pour enfants. Voilà, il y a quelques grandes émotions de base, mais toute la complexité émotionnelle est perdue, hein, forcément, parce que les visages sur l'écran sont très caricaturaux, c'est des masques caricatures d'émotions, et puis il passe très vite, donc même si l'enfant repère l'émotion et l'identifie, il n'en comprend pas les raisons, donc c'est une machine à brouiller les repères émotionnels. Et puis pour nous autres qui sommes adultes, ben nous voyons aussi maintenant beaucoup de films avec des acteurs et des actrices tellement botoxés qu'ils n'ont plus tellement d'émotions non plus sur leur visage, et c'est les situations dans lesquelles ils sont impliqués qui nous donnent le mode d'emploi des émotions qu'ils ressentent. Donc on va chercher maintenant des photos, des petits films de gens qui habitent au fin fond de l'Afrique ou de l'Amazonie pour retrouver une richesse émotionnelle sur les visages. Mais à la télé, au cinéma, on en voit de moins en moins. Hélas, dans les familles aussi, souvent, on en voit de moins en moins.
Alors, très brièvement, et je laisserai aux auditeurs, bien sûr, l'occasion de le découvrir bien plus amplement et bien plus explicitement dans ce livre « Empathie et manipulation ». Mais à quoi, alors, comment repérer la manipulation pour s'en prémunir est-ce qu'il y a une question qu'on doit se poser systématiquement? On se dit, par exemple, est-ce que c'est une vraie émotion qu'on essaye de susciter chez moi, ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière?
Alors, c'est très compliqué, mais ce que je conseille toujours, c'est de faire confiance a priori. Alors, évidemment, si on fait confiance a priori, si on accepte que l'empathie soit réciproque, si quelqu'un qui semble avoir de l'empathie pour nous, on accepte d'en avoir pour lui, on accepte de se rendre vulnérable à l'autre, on court le risque d'être manipulé, donc il faut le faire de façon vigilante. Oui. Hein, à la moindre déception, à la moindre impression qu'on est manipulé, il faut se retirer, au moins à titre provisoire, pour voir comment les choses tournent. Mais en revanche, si on ne fait pas confiance a priori, on risque d'être déçu à tous les coups. Si on ne fait pas confiance a priori, si on n'investit pas nos vraies émotions, si on fait semblant soi-même, parce qu'on a l'impression que l'autre fait semblant, eh bien, on a l'impression de passer à côté de sa vie. On est dans une relation morte, on n'est pas dans une relation vivante. Voilà. Donc, faire confiance à autrui, mais avec beaucoup de prudence. Mais encore une fois, ceux qui font confiance risquent d'être déçus, c'est vrai, mais ceux qui ne font pas confiance seront déçus à tous les coups.
Moi, j'aime bien cette idée de laisser la porte ouverte.
Laisser la porte ouverte.
Ah oui,
voilà.
C'est en même temps avancer dans la vie sans avoir constamment des a priori et des clichés aussi qui vont nous encombrer. Et comme vous dites, on peut être déçu, c'est vrai. Acceptons l'idée qu'on puisse être déçu, mais on peut aussi être heureusement surpris en faisant ça.
Absolument. On ne peut jamais savoir. Dans le 16e arrondissement à Paris, il y a un foyer pour migrants qui a été installé. La population n'en voulait pas. C'est le 16e arrondissement à Paris,
oui,
c'est très chic.
Je me souviens.
La population n'en voulait pas. Et bien maintenant que le foyer a été installé contre l'avis de la population, il semble que tout se passe très bien et que les gens se découvrent mutuellement.
Donc, il n'y a pas les violences séries.
Non, il n'y a pas les violences séries.
C'était ça, hein.
Voilà. Et donc voilà, il faut accepter que des gens qu'on ne connaît pas sont des humains comme nous, capables de développer une grande complexité de liens. Et il y a autant de gens, il y a autant de violeurs, de truands et de tueurs parmi les gens qui ont la même couleur de peau que nous, que parmi ceux qui ont une couleur de peau différente. Donc il faut passer sur ces a priori que la nature a installé à l'intérieur de nous, mais nous ne sommes pas des êtres de nature, nous sommes des êtres de culture. Et on parle beaucoup de mondialisation, c'est le moment de mondialiser l'empathie.
Ah, belle formule pour terminer, Serge Tisseron. Merci beaucoup. Empathie et manipulation, les pièges de la compassion, c'est paru aux éditions Albin Michel. Merci d'être passé chez nous pour nous en parler, Serge Tisseron.